chez vous, c'est une tirine.
Oh,
Comme moi, triturer les boutons de votre transistor, vous avez peut-être pu entendre
Principe Actif.
Et si les autorités savaient où se trouve l'émetteur de cette radio clandestine, elles auraient pu interrompre cette émission.
Principe Actif à Évreux, 102.4, dans le sud de l'Eure, 95.9.
Écoutez RFI Radio France Internationale, il est 7h à Paris, 5h en temps universel.
Arnaud Pontus.
Et bienvenue sur la planète football. Dès aujourd'hui, Le Monde et RFI vont tourner au rythme des matchs du Mondial. Coup d'envoi dans 14h pour cette compétition XXL en Amérique. 48 équipes sur la ligne de départ, 48 pays que nous allons visiter tout au long de cette journée sur RFI. Et avant l'édition spéciale que nous vous proposons dans une heure, voici le journal avec Julien Coquel-Rohem. Bonjour Julien.
Bonjour Arnaud, à la une de ce journal, le début, oui, du Mondial de la démesure. 48 équipes, vous le disiez, 104 matchs et 3 pays organisateurs. On vous fait vivre le Mondial dès ce matin. À la une également, une nouvelle nuit de frappe entre l'Iran et les États-Unis. Téhéran annonce la fermeture totale du détroit d'Ormuz. Et on fait le point à New York avec notre correspondant sur place. Dans ce journal aussi, la Guinée, où les opérations de recherche se poursuivent 4 jours après le glissement de terrain qui a fait au moins 11 morts dans une mine d'or artisanale. Le non-respect des règles de sécurité à nouveau pointé du doigt. Et puis c'était la limite fixée par l'accord de Paris pour la fin du siècle, 1,5 degré de réchauffement climatique. Des chercheurs affirment ce matin qu'elle pourrait être franchie dès 2030.
C'est une grande fête que RFI vous fait vivre à partir d'aujourd'hui.
Les amoureux du ballon rond ont en tout cas de quoi se réjouir. Plus que quelques heures désormais avant le coup d'envoi de la Coupe du Monde de football au Mexique, aux États-Unis et au Canada. Tout va commencer ce soir à Mexico avec le match d'ouverture Mexique-Afrique du Sud, le premier des 104 matchs de cette compétition. Bonjour Cédric de Oliveira.
Bonjour Julien.
Le début d'une édition hors norme du mondial, hors norme à tout point de vue.
Oui, trois pays, Mexique, États-Unis, Canada, ça n'était jamais arrivé dans l'histoire de la compétition. Avec un territoire couvert très important, jusqu'à 4000 km parfois de distance entre certains stades, de Guadalajara à Vancouver, de Los Angeles à Boston, c'est du jamais vu. Coupe du Monde XXL, on en a parlé, voulu par Gianni Infantino, le patron de la FIFA qui voulait plus de matchs. Il a donc décidé de faire venir plus de participants. 48 pays, c'est la moitié, plus de la moitié d'équipes en plus que les éditions précédentes. Ça veut dire qu'il y aura 104 matchs au total. Et du coup, des belles histoires déjà. Première participation pour le Cap-Vert, Curaçao, la Jordanie, l'Ouzbékistan qui vont tenter de se qualifier au moins pour les 16e de finale. Julien, pour être champion du monde, il faudra bien négocier les trois matchs de poule et remporter 5 rencontres. Ensuite, la route est longue.
Et Cédric, les équipes de RFI, vous en faites partie, se mobilisent pour nous faire vivre cette longue route, cette Coupe du Monde.
Alors, on ne va pas diffuser les 104 matchs. 33 en intégrale sur l'antenne en français, sur les antennes africaines. 15 au premier tour. Au passage, France-Sénégal, mais aussi Allemagne-Côte d'Ivoire ou encore Portugal-RDC. Il y aura plusieurs rendez-vous dans la matinale avec des journaux de la Coupe du Monde ici à Paris. Au total, 24 personnes seront déployées sur le terrain avec nos envoyés spéciaux au Mexique, au Canada, aux États-Unis, de la rédaction en français, mais aussi des journalistes des langues et des vidéastes. La Coupe du Monde, il en sera aussi question dans Radio Foot International, évidemment avec Annie Gasnier, dans Mondial Sport avec Hugo Moissonnier le week-end. Bref, beaucoup de football sur RFI jusqu'au 19 juillet, jour de la finale à New York.
Cédric de Oliveira, merci. Et la Coupe du Monde sur RFI, ça commence ce soir, Mexique, Afrique du Sud, à suivre sur nos antennes africaines à partir de 19h, temps universel. Lui dit merci Donald Trump, le patron de la FIFA, Gianni Infantino, souvent moqué pour sa proximité avec le président américain, a de nouveau fait les louanges du président américain lors de sa conférence de presse hier. Il salue l'engagement et l'implication de Donald Trump, sans qui, selon lui, il aurait été impossible d'organiser ce mondial. Gianni Infantino, qui a balayé les critiques sur cette Coupe du Monde, elle ne manque pas, notamment la question du prix des billets exorbitants. La justice américaine a d'ailleurs ouvert des enquêtes à ce sujet. Le patron de la FIFA qui a aussi répondu à la polémique sur l'interdiction d'entrée aux États-Unis de l'arbitre Omar Hartan et de supporters de plusieurs pays. Il invite les fans à se relaxer.
Les billets hors de prix, les difficultés à obtenir des visas qui transforment pour de nombreux fans la route vers la Coupe du Monde en parcours du combattant. Exemple en Colombie.
Où les supporters de la tricolore ont dû souvent renoncer à faire le déplacement. Ils vont trouver d'autres façons de vibrer ensemble chez eux. Reportage à Medellín de Najed Benrabah.
Même sans billets, les Colombiens ne ratent pas un match pour autant. Le football est une passion nationale et tout le monde met la main à la pâte. La mairie, les bars, les restaurants, salles de gym, les tiendas, comprenez les épiceries de quartier et les centres commerciaux, sortent les écrans géants. Dans le centre commercial d'Unicentro de Medellín, la foule s'agglutine devant l'écran. Sébastien Restrepo est assis avec son fils et sa femme.
L'ambiance est sympa ici. Ce n'est pas la même chose de regarder le match à la maison qu'ici. Quand nous sommes ensemble et qu'on partage l'événement avec d'autres personnes, ça change l'ambiance. C'est une très bonne ambiance pour regarder le match. Disons qu'on se prend plus au jeu, on est plus enthousiaste.
Alexander Estrada, les yeux rivés sur l'écran, ne manque aucune action, concentré, tendu.
Oui, on sort toujours pour voir les matchs, même si on ne va pas au stade. On sort profiter du match avec le public toujours. Ah, il y a un but, ah non, presque.
En Colombie, le football n'est pas qu'un sport, c'est un rituel familial, social, populaire. Chaque match est une fête, même à des milliers de kilomètres des stades. Najed Benrabah, Medellín, RFI.
Et toute la journée, RFI vous emmène dans les 48 pays qualifiés pour ce mondial, dans nos journaux, nos émissions, notre édition spéciale aussi autour d'André-Yann Mellard. Dans tout juste une heure, à partir de 6h10, temps universel, on évoquait les critiques. La Coupe du Monde pointait du doigt aussi pour son bilan carbone désastreux, c'est à lire dans un article publié sur notre site RFI.fr.
Il était déjà précaire, le cessez-le-feu entre l'Iran et les États-Unis peut-il encore tenir?
Et peut-on d'ailleurs encore parler d'un cessez-le-feu ce matin, Arnaud, après une deuxième nuit consécutive de frappes interposées entre les deux pays? Bonjour Gwendal Lavina.
Bonjour.
Correspondant de RFI à New York, l'escalade de ces dernières heures est la plus importante depuis le début de la trêve il y a deux mois.
Oui, pour la deuxième nuit consécutive, le commandement américain pour le Moyen-Orient a frappé l'Iran. Des frappes à travers tout le pays qualifiées de défensives contre des installations de surveillance militaire ou encore des sites de défense aérienne selon l'armée américaine. Mercredi midi, Donald Trump promettait depuis le bureau Oval d'attaquer encore plus durement l'Iran après qu'un hélicoptère américain a été abattu lundi au-dessus du détroit d'Ormuz. Le président accuse aussi Téhéran de mettre trop de temps à négocier un accord de paix et de se moquer des États-Unis. En réponse, les gardiens de la révolution iranienne affirment avoir frappé des bases au Koweït et à Bahreïn. 18 cibles importantes appartenant à l'armée américaine y auraient été touchées, selon l'organisation. Téhéran dit même avoir visé un centre de commandement américain en Jordanie avec des missiles balistiques.
Il y a donc ces frappes, Gwendal, mais l'affrontement entre les deux pays se joue aussi à nouveau dans le détroit d'Ormuz.
Ce passage stratégique est au cœur du conflit qui dure depuis 3 mois et demi, tour à tour fermé puis ouvert sous certaines conditions. Washington et Téhéran se disputent son contrôle. Téhéran annonce qu'il est complètement fermé à tout type de navire depuis quelques heures, ce que dément l'armée américaine. 2 cargos qui tentaient de le franchir ont été frappés, annonce la marine iranienne. Autant d'éléments qui mettent à mal le maintien du cessez-le-feu déjà fragile et la poursuite des négociations entre Washington et Téhéran qui officiellement sont toujours en cours.
Gwendal Lavina à New York pour RFI, merci beaucoup. Sur les négociations, ces mots du ministre américain de la Défense, nous devons négocier à coups de bombes et nous sommes très doués pour ça, dit Pitexet. Washington dément par ailleurs tout blocage du détroit d'Ormuz, mais les prix du pétrole repartent à la hausse ce matin. C'est dans ce contexte que 22 pays, dont la France, les États-Unis, l'Australie et plusieurs pays européens, appellent aussi l'Iran ce matin à cesser les attaques contre des personnes sur leur territoire. Ils dénoncent des tentatives de meurtre et d'autres actions malveillantes, notamment la récente campagne d'attaque menée en Europe contre des communautés juives, des journalistes iraniens et des intérêts américains.
La Chine se disait dès hier matin profondément préoccupée par l'escalade en cours au Moyen-Orient.
Pékin qui tente de jouer un rôle depuis le début de la guerre dans la résolution du conflit. La Chine invitée par ailleurs par Emmanuel Macron pour un exercice diplomatique délicat avant le sommet du G7 qui s'ouvre dimanche à Évian. Le président français va tenter de réunir autour d'une même table virtuelle les grandes économies occidentales, la Chine et plusieurs pays émergents. Objectif, réduire les tensions commerciales et relancer la coopération économique. Mais derrière les appels au dialogue, les désaccords restent profonds, Cléa Broadhurst.
Alors que les tensions commerciales se multiplient entre la Chine, l'Europe et les États-Unis, Pékin devrait profiter de cette visioconférence pour défendre son rôle dans l'économie mondiale. Les autorités chinoises rejettent les accusations occidentales de concurrence déloyale et de surcapacité industrielle. Selon elles, si la Chine exporte massivement des voitures électriques, des batteries ou des panneaux solaires, c'est avant tout parce qu'elle est devenue plus compétitive. Pékin devrait également réaffirmer son attachement au libre-échange et dénoncer les barrières commerciales qui se multiplient de part et d'autre de l'Atlantique. Un message particulièrement adressé à l'Europe qui cherche à réduire sa dépendance économique vis-à-vis de la Chine. Cette rencontre intervient aussi dans un contexte de nouvelles tensions entre Pékin et Bruxelles. L'Union européenne envisage de sanctionner plusieurs entreprises chinoises accusées de soutenir indirectement l'effort de guerre russe, une décision vivement critiquée par la diplomatie chinoise. Au-delà des divergences, la participation de Pékin à cette initiative française montre aussi une préoccupation commune, éviter qu'une nouvelle guerre commerciale ne vienne fragiliser davantage une économie mondiale déjà en ralentissement. Cléa Broadhurst, Pékin, RFI.
Et au G7 à Évian cette semaine, la venue annoncée de Volodymyr Zelensky, Emmanuel Macron dit l'avoir invité pour recréer, je cite, de la convergence en soutien à l'Ukraine. La guerre au Moyen-Orient s'invitera elle aussi au sommet avec la participation de l'Égypte, de l'Arabie Saoudite, du Qatar et des Émirats Arabes Unis.
En Guinée, les suites d'un nouveau drame dans une mine d'or artisanale.
RFI vous l'annonçait hier matin, 11 morts, des blessés et de nombreux disparus en début de semaine dans l'éboulement d'un terrain sur une mine artisanale d'orpaillage à Quintignan dans l'extrême nord-est de la Guinée. Un événement hélas fréquent dans la région où des ressortissants ouest-africains exploitent parfois au péril de leur vie les richesses du sous-sol. À Conakry, Mouktar Bam.
Sur le terrain, des opérations de recherche se poursuivaient hier mercredi, 4 jours après le glissement de terrain. Les conditions sont particulièrement difficiles en pleine saison des pluies et le matériel manque pour tenter de retrouver d'éventuels survivants ou d'autres victimes ensevelis sous les décombres. Selon des sources sécuritaires et humanitaires, 2 camions Ben auraient été ensevelis lors du glissement de terrain, ce qui fait craindre un bilan plus lourd. L'un des camions transportait 18 personnes. 7 ont réussi à s'échapper, 4 ont été blessés et les 7 autres ont été tués. Un second camion est également enfoui sous les décombres. La population locale et les familles endeuillées dénoncent l'exploitation en dehors de toute mesure de sécurité et de contrôle des mines artisanales abandonnées, des lieux où les orpailleurs clandestins prennent des risques considérables dans l'espoir de trouver de l'or. Elle dénonce le non-respect des règles de sécurité dans de nombreux sites artisanaux où les contrôles sont limités et les mesures de prévention insuffisantes. Docteur Bakonaki.
Put that on BL, I put BBs in my mother. I forgot to hit my knees. Yeah. Freddie Kane clocking overseas. Rapper of the years, fuck the nominee.
Hardy, Corvette, I'll be chasing you down. It's a rap so easily, so easily. Hardy, on the dash, I'll be shaking you down. It's a rap so easily, so easily.
À cette station, shérif. Il suffit de couper le courant.
Mais vous n'y pensez pas, docteur. On ne coupe pas une telle courbe démographique. C'est le plus fort taux d'audience de toute l'histoire de la radio.
Ne soyez pas si égocentrique.
Vous écoutez Principal Kiff. À Évreux, 102.